Au temps du prophète Ésaïe, l'iniquité régnait avec tant d'intensité parmi toutes les classes de la population de Juda que les rares fidèles étaient souvent tentés de se laisser aller au découragement et au désespoir. Il semblait que le dessein de Dieu à l'égard d'Israël était sur le point d'échouer et que la nation rebelle subirait un sort semblable à celui de Sodome et de Gomorrhe. On ne s'étonne donc pas qu'en présence d'une telle situation, Ésaïe se soit dérobé à l'appel qui lui était adressé sous le règne de Josias, de donner un message d'avertissement et de reproche au royaume de Juda. Il n'ignorait pas, il se heurterait à une résistance opiniâtre. Aussi, tandis qu'il se rendait compte de son incapacité en face de la situation, il pensait à l'endurcissement et à l'incrédulité du peuple pour lequel il était appelé à travailler. Il lui semblait que son œuvre serait vouée à l'échec. Devait-il, dans son désespoir, renoncer à sa mission et abandonner Juda à son idolâtrie? Les dieux de Ninive devaient-ils régner sur la terre et défier le Dieu du ciel? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre en étudiant le sujet titré « Une crise gouvernementale ». Le prophète commence par nous parler de l'année de la mort du roi Ozias. Ainsi, il introduit son ministère en Juda, l'année de la mort du roi Ozias. Qui était celui-ci? Ozias était fils du roi Amatsia. À la mort de son père, il devint roi à 16 ans et régna 55 ans. Au début de sa vie, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et notre Dieu prenait plaisir à le bénir et à bénir son royaume, quoique tous ses sujets ne fussent pas loyaux au Dieu du ciel. Toutefois, après quelques longues bonnes années de réussite, l'orgueil s'empara de son cœur. Il a pensé jouer à la fois le rôle de roi et celui de sacrificateur. Ainsi, il est entré dans le temple de Jérusalem et commença à offrir du parfum. Les souverains sacrificateurs et les autres prêtres vinrent pour l'exhorter à quitter le temple parce que le rôle auquel il s'était consacré n'était pas véritablement le sien. Alors, Ozias, gris de colère et rouge dans son orgueil, n'a pas voulu obéir au sacrificateur. Dans l'immédiat, il devint blanc de lèpre. Et rapidement, on a dû le sortir du temple, et à partir de ce jour, il demeura dans une maison isolée, loin de son peuple, comme c'était le cas pour tous les lépreux d'alors. L'année de la mort du roi Ozias. Plusieurs perspectives peuvent être envisagées au sujet de la mort de ce roi. Bien que le règne d'Ozias fût long et prospère, comme je viens de vous le dire, lorsqu'il fut devenu fort, son cœur s'enhardit au point d'entraîner sa tête et il voulut offrir de l'encens dans le temple. Quand les prêtres cherchèrent à l'en empêcher, parce qu'il n'en avait pas l'autorisation, n'étant pas prêtre de la lignée d'Aaron, le roi se mit en colère. Oui, il se mit en colère. Il existe un contraste frappant entre Ozias et Ésaïe. Ozias a recherché la sainteté de façon présomptueuse pour de mauvaises raisons. Et du coup, il est devenu rituellement impur, si bien que toute sainteté lui a été refusée. Isaïe, en revanche, a donné à Dieu l'occasion de le toucher de sa sainteté. Il a humblement admis ses faiblesses et a aspiré à la pureté morale qu'il a reçue. Comme le péager de la parabole de Jésus, il est reparti justifié, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a une similitude éclatante entre le corps lépreux d'Ozias et la condition morale de son peuple. Rappelez-vous, nous avons vu le week-end dernier dans Ésaïe chapitre 1er, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Toute la tête est malade, le corps entier est malade et tout le cœur est souffrant. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. En effet, bien chers amis, comme je viens de vous le dire, dans le peuple de Juda, rien n'était en bon état. La mort d'Ozias en 740 avant Jésus-Christ marque le début d'une crise majeure dans le gouvernement du peuple de Dieu. La mort de tout monarque absolu rend le pays vulnérable en attendant que nouveau pouvoir se mette en place. Mais Juda se trouvait particulièrement en danger parce que le roi d'Assyrie était monté sur le trône. Un nouveau roi, plutôt, venait de monter sur le trône d'Assyrie quelques années plus tôt, en 745 avant Jésus-Christ, partant immédiatement en guerre et faisant de sa nation une grande puissance invincible qui menaçait l'indépendance de toutes les nations du Proche-Orient. Dans cette période de crise, Dieu a encouragé Ésaïe en montrant au prophète qu'il avait toujours en main la direction des événements. Lisons pour continuer Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, poursuit le prophète, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Bien, chers amis, remarquez bien ce qui se passe ici, notamment dans les quatre premiers versets des Ésaïe 6. Le roi Ozias meurt au milieu d'une grande confusion politique. Les Assyriens étaient en guerre, je viens de vous le dire. L'époque pouvait être effrayante pour Ésaïe s'il ne savait pas avec certitude qui gardait le contrôle des événements. Qu'arrive-t-il ensuite? Dans une vision, Le prophète contemple la gloire étincelante de Dieu sur son trône, entend des séraphins brillants répéter les mots Saint, Saint, Saint. Sans le séisme en résultant, secouer le sol sous lui et scrute les volutes de fumée qui remplissent le temple. Cette expérience a dû être stupéfiante pour le prophète. Il est certain qu'Ésaïe savait maintenant qui possédait le contrôle malgré les événements extérieurs. Pouvons-nous poser une question? Oui, et alors? Où se trouvait le Seigneur dans cette vision? Dans son temple. Rappelez-vous, dans Exode 25, il avait demandé au peuple dans le désert de lui construire un sanctuaire afin qu'il habitât au milieu d'eux. Et quand le sanctuaire avait été dressé, dans Exode chapitre 40, nous lisons Exode chapitre 40, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Jusqu'à ce qu'elle s'éleva, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Belle histoire, beau tableau, bel événement. Oh, c'est vraiment intéressant. Nous nous rappelons que les prophètes Daniel, Ézéchiel et Jean se trouvaient en exil quand ils ont eu leur vision. Comme Isaïe, ils avaient besoin d'un réconfort et d'un encouragement particulier de la part de Dieu, leur montrant qu'ils possédaient toujours le contrôle des événements, même si leur univers s'écoulait. Daniel et Ézéchiel étaient captifs dans une nation païenne qui avait détruit la mer. Et Jean avait été exilé sur une île isolée par un pouvoir politique hostile. Nul doute que ces visions les ont aidés à recevoir ce dont ils avaient besoin pour rester fidèles, même en des circonstances difficiles. La description que Jean fait du temple de Dieu au ciel est particulièrement proche de ce qu'Isaïe a vu. Dans Apocalypse, chapitre 4 et le verset 8, le prophète a vu des anges aussi zèles aussi, chantant également « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Bien-aimé, la sainteté transcendante de Dieu, mise en valeur dans la vision d'Ésaïe, est un aspect essentiel de son message. Je dis sainteté transcendante, trans à travers ou bien au travers. En effet, Dieu veut communiquer à toute personne sur la terre sa sainteté. D'ailleurs, il nous dit à chacun, vous serez saint car je suis saint. Vous pouvez me poser une question. Comment, pasteur Verne, puis-je devenir saint? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En sorte que nous n'avons qu'à entreprendre de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et tout le long du temps, la sainteté deviendra notre partage. Oui, elle deviendra notre partage. Dieu est un Dieu saint qui attend de son peuple la sainteté. Une sainteté qu'il lui accordera si seulement il se répand, se détourne de ses voies mauvaises et se soumet à lui dans la foi et l'obéissance. Nous savons que notre Seigneur veut partager avec nous tous ses attributs. Évidemment, nous deviendrons semblables à lui à certains égards, ou plutôt à tous égards, selon notre possibilité, puisque nous sommes créatures et lui créateur. Il est le tout-puissant, mais nous pouvons être puissants. Il est omniscient, mais nous aussi pouvons avoir quelques sciences. Il est omniprésent, mais nous également sommes présents là où nous sommes au moins. Bien-aimés, Dieu partage et veut partager sa sainteté, ses attributs et même un peu de sa nature, puisque il nous a formés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, il revient à chacun de nous de gérer magnifiquement ces privilèges notoires que nous avons reçus du Dieu de l'univers. Nous sommes créés à son image. Par conséquent, cultivons cette image. Nous sommes créés à sa ressemblance. Par conséquent, ressemblons à lui. Il nous a créés saints, sans défaut. Par conséquent, recherchons la sainteté. Parce que le péché a un remède. Oui, il y a un remède contre le péché. C'est le sang qui a coulé au calvaire. Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En sorte que, je vous l'ai dit le week-end dernier, aucun homme n'est trop corrompu pour n'être pas lavé dans le sang de Jésus-Christ. Nous tous pouvons trouver grâce pourvu que nous nous approchions du trône de Dieu avec un cœur défaillant, contrit, un esprit brisé, une attitude modeste, humble, mais effectivement sincère. Mon ami qui m'écoutait, comment gérez-vous votre vie? Êtes-vous saint ou corrompu? Déloyaux ou sincère? Méchant ou bon? Avatar ou excellent? Quels sont vos attributs? Pourtant, le Seigneur Dieu veut nous accorder une personnalité nouvelle. C'est pourquoi, même lorsque notre gouvernement, le gouvernement autour de nous serait en crise, nous autres devons rechercher la paix, la sécurité et la stabilité dans le Seigneur l'Éternel, qui veut accorder à tous, selon la richesse de son amour et l'ampleur de sa miséricorde. Ésaïe 6, verset 5 à 7 nous dit, Ésaïe chapitre 6, verset 5 à 7 nous dit, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Au sanctuaire, seul le grand prêtre pouvait s'approcher de la présence de Dieu dans le Saint des Saints, le jour des expiations, à condition d'être protégé par de la fumée d'encens, car sinon il mourrait. Isaïe, lui, a vu le Seigneur, alors qu'il n'était pas grand prêtre et ne brûlait pas d'encens. Le temple s'est rempli de fumée, nous rappelant la nuée dans laquelle se manifestait la gloire de Dieu le jour des expiations. Rempli d'une crainte respectueuse et pensant que c'était sa fin, le jeune prophète a crié vers Dieu en reconnaissant son péché et le péché de son peuple, évoquant la confession du grand prêtre le jour des expiations, ayant assisté au culte de Dieu chanté par les lèvres d'êtres célestes. Ésaïe a pris conscience de l'imperfection du culte offert par les lèvres d'êtres humains mortels et faillibles. Mais heureusement, le séraphin a expliqué au prophète qu'en lui touchant les lèvres, sa culpabilité et son péché lui étaient ôtés. Le péché ici n'est pas spécifié, mais il ne se limite pas forcément à de mauvaises paroles, parce que les lèvres ne représentent pas seulement les paroles, mais aussi la personne tout entière qui les prononce. Ayant été purifié moralement, Esaïe était maintenant en état d'offrir de pures louanges à Dieu. Le feu étant un agent purificateur, parce qu'il brûle les impuretés, le séraphin s'est servi d'une braise, c'est-à-dire un charbon ardent, issu du feu spécial et saint de l'autel, que Dieu lui-même avait enflammé et qu'on gardait perpétuellement allumé. Le séraphin a, de la sorte, rendu Esaïe saint, tout autant que pur. Et c'est pour vous dire en passant qu'on peut être saint sans être pur. Cela peut étonner. Je vous donnerai un exemple. À la croix, le larron qui avait conservé, qui avait confessé sa foi en Jésus, immédiatement est devenu saint pour Jésus et promesse lui a été faite d'entrer dans le royaume des cieux, d'être présent avec Jésus au paradis. Pourtant, il n'était pas encore un homme purifié. C'est la justification par la foi. Poursuivons. Il y a plus. Au moment du culte au sanctuaire, on retirait des braises de l'autel, principalement pour allumer de l'encens, où le grand prêtre devait prendre sur l'autel une cassolette pleine de braises et l'utiliser pour allumer de l'encens. Mais dans Ésaïe 6, le séraphin applique la braise sur les lèvres d'Ésaïe et non sur de l'encens. Alors qu'Ozias voulait offrir de l'encens, Esaïe est lui-même devenu comme de l'encens. Tout comme le feu saint fait brûler l'encens pour remplir la maison de Dieu d'un saint parfum, il transmet sa flamme au prophète pour qu'il annonce un message saint. Ce n'est pas par hasard. Si, dans les versets suivants que nous allons lire dans quelques instants, Dieu envoie Esaïe vers son père. À la vérité, le verset 8 nous dit, j'entendis le Seigneur disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, Seigneur, envoie-moi. Avant de faire, lisons, ou plutôt, avant de continuer, lisons les versets 9 à 13 d'Ésaïe 6. Verset 9 à 13 d'Ésaïe chapitre 6. Le Seigneur dit alors, va et dit à ce peuple-là, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouchez-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusque à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne, conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Il y a toujours de l'espoir pour celui qui se confie en Dieu. Il y a toujours une lumière à poindre sur les ténèbres de l'homme saint. Il y a toujours un bois à être jeté au secours du fidèle plongé dans la mer, tombé dans la mer. Oui, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ayant été purifié, Esaïe a immédiatement répondu à l'appel de Dieu qui cherchait à envoyer un représentant de sa part. selon les termes du Nouveau Testament, Esaïe aurait porté le nom d'apôtre, c'est-à-dire celui qui est envoyé. Il est intéressant de noter que le livre d'Esaïe ne commence pas, comme certains autres livres prophétiques, par le prophète décrivant comment il a été appelé. En d'autres termes, Esaïe avait sans doute été appelé comme prophète avant même les événements du chapitre 6. Il arrive, selon ce que le montre la Bible, qu'une rencontre divine encourage un prophète, même après le début de son ministère. Contrairement à d'autres exemples également, Dieu annonce à des personnes qu'elles seront prophètes. Dans Esaïe 6, le prophète se porte volontaire pour une mission spéciale. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il répondit, me voici Seigneur, envoie-moi. Bien-aimé, ces paroles adressées à Esaïe, il y a de cela 23 ou 24 siècles, est encore adressé à chacun de nous. Dieu vous veut pour prophète. Dieu vous veut pour messager. Dieu vous veut pour ambassadeur. Cela peut ne pas impliquer nécessairement que vous serez pasteur, missionnaire ou grand prédicateur quelque part. Non, pas nécessairement. Cependant, là où vous êtes, dans votre localité d'origine, dans votre quartier de résidence, dans votre ville, vous pouvez être un représentant de l'Éternel, vivant les paroles de l'Éternel, vivant la parole de l'Éternel et proclamant la volonté de l'Éternel. Un chant dit, le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. En effet, le missionnaire qui parcourt le monde, prêchant la parole à des dizaines de milliers et même des millions, n'est pas plus grand que l'homme fidèle, habitant une localité modeste, représentant absolument notre Seigneur Jésus-Christ, prêchant sans feinte et sans hypocrisie la parole du ciel et exhortant ses voisins à la sainteté, à la crainte de Dieu, à l'obéissance. Les deux, au jour du retour de Jésus, verront leur maître et participeront à son église. Évidemment, non seulement le sanctuaire de Dieu vibre d'une puissance majestueuse, mais c'est un lieu où des gens faibles et fautifs comme nous trouvent refuge. Savoir que Dieu œuvre à nous sauver par le Christ, notre grand prêtre, est rassurant. Oui, c'est très rassurant. Quand Dieu s'est adressé à Esaïe pour l'envoyer vers le peuple de Juda, nous devons confesser que l'appel n'était pas trop intéressant. Il était plutôt effroyable. Mais vous pouvez me dire que Dieu, pourquoi pasteur Zen parle-t-il ainsi? Écoutez, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouchez-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. De peur que nous ne pensions qu'Esaïe avait mal entendu, ou que ce message était sans importance, Jésus l'a cité pour expliquer pourquoi il enseignait en parabole. Lisons Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amis qui m'écoutez, c'est un petit peu dur qu'un homme entende et ne comprenne point, qu'il regarde et ne voit point. Une question, quand est-ce que cela peut se produire? Précisément, quand l'individu n'a pas le désir de pratiquer ce qu'il entend. Ainsi, bien souvent, il nous arrive d'écouter l'Évangile, de regarder bien droit celui qui parle, et pourtant nous n'entendons rien parce que notre esprit est ailleurs. Notre compréhension est à autre chose. Ne vous est-il pas arrivé cela? Si oui, faites attention, parce que c'est un danger, car Dieu ne souhaite pas que quelqu'un se perde. Ce qui explique pourquoi il a envoyé Ésaïe vers le peuple de Juda et Jésus dans le monde. Dieu désire nous détruire, Dieu désire nous détruire, mais sauver éternellement. Mais si certains hommes répondent positivement à ces appels, d'autres durcissent leur résistance. Néanmoins, le Seigneur continue de les appeler afin de leur donner de plus en plus d'occasions de se repentir. Pourtant, plus ils résistent, plus ils s'endurcissent. En ce sens, ce que notre Sauveur fait pour eux a pour résultat d'endurcir leur cœur alors qu'ils préféreraient que ces interventions l'adoucissent. L'amour de Dieu envers nous ne change pas. Ce qui varie de façon cruciale est notre réponse envers lui. Amis qui m'écoutez, Dieu vous aime. Il m'aime. Et c'est précisément parce qu'il nous aime que nous sommes encore vivants. Nous avons tellement péché. Et en principe, dès que quelqu'un pêche, il devrait quitter le monde et entrer dans la poussière. Et voici que, depuis des années, nous sommes sous le soleil, vivants, marchants, travaillants, jouissants, etc. Tout cela, ce sont des jours de patience accordés par le Seigneur, afin que nous ayons du temps de nous repentir et de nous convertir. Et maintenant, nous devons bien gérer ces jours, parce que il viendra un moment où ces jours finiront, et alors commencera la colère. Et quand viendra le temps de la colère, les plaies viendront aussi, et avec les plaies, la destruction. Amis qui m'écoutez, quel est votre avenir devant le ciel? Et quel est votre présent en face de Dieu? Êtes-vous en crise? Ou bien en crise d'identité? Avez-vous perdu votre identité devant le Seigneur à cause de vos multiples péchés? Cependant, nous savons, même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige, parce que le Seigneur veut nous les pardonner. Venez donc recevoir le grand pardon, le doux pardon, afin que nous passions de la crise à la sérénité, de la destruction à la construction, de la perdition à la vie, et qu'ainsi nos âmes continuent à prendre plaisir dans les choses saintes de Dieu qui nous accordera sa sainteté. Et alors, vous serez appelés saints, ajoutez votre nom, et moi aussi, vous serez devenu saint, verne. Je le désire de tout mon cœur pour moi-même, et je le désire aussi pour vous-même. Ensemble, marchons, marchons, avançons, prenons, décidons vivant. Et certainement, le Seigneur nous couvrira de ses ailes, et le séraphin viendra du ciel avec sa braise pour nous toucher les lèvres, en vue de nous purifier de nos iniquités et nous sanctifier de tous nos péchés. Qu'il en soit ainsi.
Malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon âme, son amour immense.
Notre Seigneur et notre Dieu, dans ta grande bonté pour nous, enfants des hommes, tu nous exhortes, tu nous instruis jour après jour et tu nous appelles à la repentance. Car ton grand désir, c'est que nous rejetions loin de nous toutes les transgressions par lesquelles nous avons péché et que nous nous fassions un cœur nouveau et un esprit nouveau par l'Esprit Saint le Sanctificateur. Veille donc dans ta bonté, nous aider à nous décider, car souvent nous le voulons, mais nous sommes faibles, donc nous ne le pouvons pas. Permets que la vigueur du ciel nous fasse vivre, et qu'ainsi nous nous levions pour marcher avec le Seigneur. Bénis cet auditeur, donne-lui de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ, afin que la vie éternelle soit devienne son partage. Aie pitié de lui et de sa maison. Fait que chaque membre de sa famille soit des témoins pour Dieu. Permet que lui aussi il se lève, non seulement pour pratiquer ta parole, mais aussi pour la prêcher à ceux-là qui ne la connaissent pas encore, en sorte que la terre soit remplie de saints. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.